Radio Barque, c'est le 32e de notre 10e saison, deuxième partie, où notre invité est Éric Andrieux, ancien député européen. Nous allons donc consacrer cette seconde partie à l'explication du fonctionnement des institutions européennes. Éric Andrieux, vous avez été député européen très longtemps. Rappelez en quelques mots d'abord comment les choses se passent. On est élu dans une élection européenne, comme il y en aura une le 9 juin, à la proportionnelle, dans un système qui est un peu différent des autres. Mais en deux mots, comment ça se passe?
Alors en deux mots, nous allons essayer de réussir cet exercice. Déjà, donc le Parlement européen rassemble 705 députés européens issus de 27 États membres. Et en fonction du nombre de pourcentage obtenu, on a un nombre d'élus.
Voilà.
Donc voilà, et qui représente la France au Parlement européen. Voilà. On est élu sur une liste depuis 2019, une liste nationale, et c'est un suffrage à la proportionnelle, intégrale, à un tour.
Je précise quand même que, alors l'Europe, bon, on y reviendra aussi, Éric Andrieux, il y a du pour, il y a du contre, il y a sans doute des échecs, il y a des grands succès également, mais on va y revenir. Mais on reproche très souvent à l'Europe d'être une institution technocratique, en tout cas pas assez démocratique, et remarquons au passage que vous, les élus, les députés européens, vous êtes les seuls qui êtes élus en tant que tels par le peuple.
Tout à fait. Il y a trois instances majeures à l'Union. Le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et les gouvernements.
Mais qui sont chefs d'État, pas élus par rapport à l'Europe.
Je vais faire une parabole française. Lorsqu'aujourd'hui en France on élit un maire, par exemple, on sait à l'évidence aujourd'hui qu'il va être siégé à l'intercommunalité. Et en France, lorsqu'on élit un président de la République, on sait qu'il va siéger au Conseil européen.
On peut tenir compte, entre autres, de ses positions sur l'Europe. Mais entre autres.
Bien sûr.
Tandis que vous, on vous a élu comme député européen. Exactement. Pour le Parlement européen.
Tout à fait. Avec une évolution. Parce que l'Europe, je dis souvent ça, c'est un nain politique. Si l'on prend l'Europe, n'a que 70 ans d'âge. Voilà. C'est un bon armagnac.
D'une part, oui. Et puis, de par ceux dont elle s'occupe, elle s'occupe de commerce essentiellement, mais on parle parfois d'Europe de la défense. Bon, on y reviendra peut-être, Éric Andrieux, mais pour le moment, c'est plus une vision, une vue de l'esprit qu'une réalité.
L'Europe s'occupe plus que du commerce, parce qu'on a 20 commissions de travail, on légifère sur tous les domaines sociétaux. C'est les droits humains, c'est l'environnement, c'est l'agriculture, c'est la sécurité et la défense, les affaires étrangères, c'est le marché intérieur, c'est le commerce international, effectivement, avec des champs de compétences qui ont été, des responsabilités, je vais essayer d'employer des termes faciles, qui ont été confiés par les États. Et effectivement, au-delà du Conseil européen qui rassemble les chefs d'État, il y a le Conseil de l'Union européenne qui rassemble les ministres de chacun des 27. Si nous travaillons, par exemple, sur une loi qui a trait à la santé, ça va réunir les 27 ministres de la santé. Et en fait, on co-légifère, évidemment. Si on fait la PAC, la politique agricole commune, elle a été travaillée par les 27 ministres de l'agriculture.
Et ça, c'est ça qui s'appelle le Conseil.
Ça, c'est le Conseil de l'Union européenne.
De l'Union européenne.
Voilà. C'est pour ça que c'est important de le préciser. Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Et les conseils de l'Union européenne, ce sont les ministres concernés par les secteurs. Et c'est eux qui vont faire le travail sur la loi. Et en fait, on co-légifère. Il y a le Parlement, les députés, qui ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, depuis le traité de Lisbonne en particulier, mais déjà avant, mais en particulier depuis le traité de Lisbonne. Et en fait, on est deux. On fait la loi à deux. Alors vous dites que c'est très technocratique, certes, c'est la pensée qu'on peut avoir de l'extérieur, mais c'est quand même le politique qui fait la loi. Et la Commission européenne, qui est une commission d'experts, il y a 27 commissaires nommés par les États membres avec leurs services, avec leur administration, leurs experts, ils sont là pour accompagner le processus. Ils ont ce qu'on appelle le pouvoir d'initiative, je ne vais pas aller dans le détail, ils exécutent les lois votées par les deux assemblées, c'est-à-dire le Conseil des ministres et les parlementaires.
Oui, or on a l'impression que ces commissaires, c'est eux qui font la pluie et le beau temps.
Ben parce qu'en fait, ce sont eux souvent qui exécutent. C'est comme le Conseil des ministres. Oui. Non, mais ils exécutent la loi votée par les élus. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir d'initiative. Schématiquement, je vais faire une petite parabole. On va dire que le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement vont impulser des directions. Voilà, je sais pas, un cours de droit c'est la Commission européenne qui va traduire ces impulsions dans un projet de texte législatif. Ce projet de texte va arriver au Parlement et au sein du collège des ministres concernés. Nous allons par voie d'amendement, modifier ce projet de texte-là, qui va devenir projet de loi, qui sera voté par les deux assemblées, les ministres et le Parlement, et ensuite, c'est la Commission européenne qui va exécuter. Voilà. Je schématise parce qu'il y a les droits les plus complexes, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne.
Oui. Et alors, ces commissaires, c'est peut-être ça qui renforce cette impression de technocratie. Ils sont nommés, ils ne sont pas élus.
Exactement. Chaque État membre nomme, c'est un sujet d'ailleurs en soi, un commissaire qui va avoir un portefeuille. On va avoir le commissaire au commerce extérieur, le commissaire à la santé. Et en gros, ça recoupe les 20 commissions administratives dans lesquelles nous siégeons au sein du Parlement européen.
Avec une présidente.
Voilà, alors il y a trois présidents. Évidemment, il y a le président du Conseil européen. Donc aujourd'hui, c'est M. Charles Michel qui préside le Conseil des chefs d'État et de gouvernement pendant la durée du mandat, les 5 ans. Ensuite, il y a une présidence du Conseil de l'Union européenne qui, elle, change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, c'est un État membre qui préside l'organisation donc du fait législatif.
Ça passe médiatiquement un peu inaperçu.
Tout à fait, tout à fait. Mais alors ça c'est un sujet en soi aussi, hein, parce que l'Union elle se construit, hein, je le dis, elle chemine. Et ensuite il y a le président de la Commission européenne qui en l'occurrence est une présidente aujourd'hui,
voilà,
Madame
elle
van der Leyen.
Qui est beaucoup plus médiatiquement connue et reconnue.
Oui, parce que elle exécute, hein, celle qui est toujours sur le devant de la scène, puisque elle propose aussi, elle a ce pouvoir d'initiative, et ensuite elle exécute. Donc elle est dans l'élément de régulation et nous travaillons évidemment de concert avec la Commission européenne. Et il y a un président du Parlement européen qui là aussi est une présidente, hein, Madame Roberta Metsola, donc voilà, qui est une Maltaise, avec qui aussi nous travaillons bien sûr au quotidien.
Oui, oui, oui. Alors à propos de l'Europe, il y a quelques mois, il s'est passé des choses pas très très flatteuses à ce niveau-là, puisque il y a eu, paraît-il, de la corruption, avec un ou des députés qui ont même été arrêtés et incarcérés, je crois.
Oui, alors il y a une députée essentiellement qui, oui, le problème de malversation, hein, donc le problème de la relation au lobby, là encore, hein, donc c'était très grave, effectivement, puis il y a beaucoup d'argent en jeu, en particulier de liens avec le Qatar, de liens avec le Maroc, donc pour ne pas les citer, mais pas que, et effectivement, bon, c'est difficile chacun vit en conscience, il y a beaucoup de règles, on est soumis à nombre de règles, donc très strictes, mais l'être humain étant ce qu'il est, certains ou certaines, et c'est dans l'intérêt personnel d'échapper aux règles, ce qui s'est produit. Alors après, on pourrait entrer dans le détail, parce que la justice belge donc a eu des comportements pas forcément équivalents en fonction des personnes considérées. Mais bon, mais effectivement, enfin, ça nous a impacté beaucoup.
Il y a
beaucoup,
bien, hein, eu corruption avérée.
Tout à fait, corruption avérée. Alors, il y a la présomption d'innocence aujourd'hui.
Oui,
donc,
bien sûr.
Mais il y a effectivement, donc là, des acteurs ont été libérés, mais ils ont été donc emprisonnés. La justice belge a fait un travail. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, hein. Mais dans tous les cas, oui, le fait est que c'est pas acceptable. Donc nous sommes en train aujourd'hui de renforcer les règles de contrôle au sein même du Parlement. Toujours, hein, je le redis, on chemine vers la convergence européenne. Et c'est un long travail, hein, parce que faire converger 27 États, 27 histoires, 27 droits vers un droit commun, finalement, à l'échelle continentale, ça se fait pas en un jour. On peut pas le décréter.
Oui, mais
les textes lettoniens ou estoniens avaient des textes de droit français ou portugais.
C'est sûr,
donc
c'est...
ça chemine vers cette vision-là.
Il faut arriver à ce que la mayonnaise prenne. Mais là, dans cette affaire, justement, de corruption, le point faible, c'est là où la prise est possible, c'est le lobbying.
Exactement.
Groupe de pression.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on a un acteur qui est un ancien député, Antonio Panzeri, pour ne pas le nommer, un député italien, qui n'a pas été élu lors du dernier mandat, qui a créé une association et qui a fait du lobby, qui a fait entrer des lobbies. Parce qu'en fait, c'était au moment de la Coupe du Monde, donc au Qatar, donc où il fallait redorer l'image du Qatar. Il a négocié des prises de parole, il a négocié des positionnements de certains élus pour amoindrir donc le jugement des Occidentaux sur le Qatar. Donc il a fait un travail d'intermédiaire plutôt entre les élus européens et les responsables de Qatari. Et oui, il y avait pour cette mission-là beaucoup d'argent en jeu. Donc ce qui est en train de se produire. Après, on doit, lorsqu'on rencontre des lobbyistes, on doit inscrire leur nom, quel qu'il soit d'ailleurs, donc sur un registre spécial. Ça, c'est contrôlé par l'administration. Donc, les choses, c'est pas acceptable. Évidemment, c'est pas acceptable.
Mais c'est une faiblesse finalement de l'Europe là.
Alors, là, ça, c'est la question des lobbies.
Est-ce que vous le percevez comme ça?
Non. Alors oui, là, dans les faits, oui, en termes de droit, oui, il y a un problème de régulation, mais j'ai envie de dire, chacun vit avec sa conscience, hein. Mais dans les lobbies.
Ça ne veut pas dire que tous les députés européens.
Non, c'est ça, il faut éviter cet amalgame-là, parce qu'on est 705, beaucoup travaillent, et quelques-uns, comme dans la société, donc, hein, profitent de la situation, et trichent. Voilà. Et les tricheurs doivent être sanctionnés, sans ambiguïté, quels qu'ils soient, quelle soit leur partie d'appartenance ou autre. Et c'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il faut que la justice se fasse et qu'effectivement ces gens-là qui ont triché soient sanctionnés comme il se doit.
Éric Andrieux, on marque une seconde pause après laquelle on reviendra dans une troisième partie sur le déroulement de la campagne.